Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Pénétré à bout de chat, vous saisit d'effroi. À moins d'un kilomètre de l'entrée de la ville, nous arrivons dans la rue Yablunska, tenue par l'armée ukrainienne. Sur 300 mètres, une vingtaine de corps de civils, fauchés là par la guerre.
Les images des journalistes de France Télévisions diffusées dans le journal de 20 heures sont insoutenables. Elles témoignent de la dureté de cette guerre en Ukraine et des atrocités commises par les soldats russes, à n'en point douter. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction des Échos se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, financière ou géopolitique. Et aujourd'hui, on va évoquer les crimes de guerre commis en Ukraine. Affreux, le son plaintif d'une mère qui a perdu son fils Alexis le 10 mars. Il avait 27 ans. Elle a caché son corps sous un tapis recouvert d'une palette pour que les chiens ne viennent pas souiller sa dépouille. Elle raconte comment il a été tué par des soldats russes dans une jeep. Ils ont tiré et ils sont partis. Les yeux rougis, plissés par la douleur, elle dit au journaliste de la BBC qui l'interroge « Je voudrais qu'ils meurent et que leurs enfants meurent aussi, comme ils ont tué mon fils. » Deux peuples, les Russes et les Ukrainiens, irréconciliables après les exactions commises par une armée qui a pris la couleur du sang, rouge.
Appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, trempe ici c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne.
Faut que ça saigne, chantait Boris Vian, l'auteur du Déserteur, qui chantait aussi qu'il n'était pas sur terre pour tuer de pauvres gens. En Ukraine, les civils sont les premières victimes de cette guerre. Bonjour Guillaume Tack.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes correspondant des Échos en Ukraine. Vous n'avez pas encore pu vous rendre à Boutcha, dont les images ont marqué ici en Occident par leur brutalité froide et leur barbarie. Mais vous vous êtes rendu dans la banlieue ouest de Kiev, à Irpin. Qu'avez-vous vu ?
Alors, effectivement, je me suis rendu, c'était jeudi dernier, donc c'était le 31 mars à Irpin, pas jusque dans le centre-ville, puisqu'en fait, lorsque je suis arrivé avec un autre collègue français, on est arrivé à l'entrée de la ville du côté de Stoyanka, et on a rencontré des membres des forces spéciales ukrainiennes qui nous ont indiqué qu'ils pouvaient en fait nous escorter jusque dans la partie qu'ils avaient, selon leurs propres termes, nettoyée de la ville, mais qu'on ne pouvait pas aller au-delà, parce qu'à ce moment-là, Irpin n'avait pas totalement été sécurisé. Ils estimaient que 70% de la ville seulement était sous leur contrôle. Et dans la partie qu'on a visitée, donc qui était assez petite, hein, c'était un quartier résidentiel à l'entrée d'Irpin. En l'espace de quelques centaines de mètres, on a vu 5 corps de civils. Initialement, les soldats nous avaient prévenu que nous allions en voir 4. Mais en fait, au moment où nous approchions pour prendre des photos de l'un des corps, qui avait été manifestement tué par un obus, puisqu'il y avait encore un cratère et des restes de shrapnel à côté du corps, ils ont trouvé le corps d'une femme, visiblement âgée, derrière une palissade en bois qui s'était effondrée, soufflée par l'explosion.
C'était clairement des civils, hein ?
Clairement, aucun doute là-dessus. Ils étaient habillés donc avec des vêtements civils. Il y avait plusieurs femmes, dont une qui manifestement était âgée. Elle avait encore son sac à main accroché au poignet, que d'ailleurs les soldats ukrainiens lui ont retiré et ont accroché à la palissade pour faciliter son identification plus tard. Donc oui, il n'y avait absolument aucun doute sur le fait que ces personnes-là étaient des civils et ne posaient aucun danger. Donc les soldats nous ont dit que certains avaient été tués par des shrapnels et que d'autres potentiellement avaient été tués par des snipers. Ce n'est pas une information que j'ai été en mesure de vérifier. Le plus probable par rapport au corps que j'ai vu, c'était effectivement plutôt des obus, soit des roquettes, soit des obus de mortier. Voilà.
À Irpin, les combats ont duré un mois. C'est un paysage de désolation qui vous a accueilli ?
Complètement. Il faut savoir que lorsqu'on rentre dans Irpin avec mon collègue Luc, on est littéralement parmi les premiers, si ce n'est les premiers journalistes à rentrer dans Irpin de ce côté-là. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'est encore le théâtre de combat. On entend dans la forêt à côté les tirs assez réguliers de défense antiaérienne. Donc, il n'y a eu aucune possibilité pour les civils à ce moment-là de retourner dans la ville et de commencer à nettoyer. Et par conséquent, en fait, on arrive sur les scènes de carnage et de destruction qui sont encore fraîches. Et donc, pas une seule maison quasiment n'a été épargnée. Toutes les vitres sont fracassées, les portes sont souvent détruites. Il y a des traces de pillage et des effets personnels qui sont éparpillés devant les maisons. Donc, on ne sait pas s'ils ont été oubliés par les occupants dans leur fuite. Ce sont des objets qui ont été utilisés, puis ensuite laissés sur le côté par les soldats russes qui ont occupé la ville. Il y avait des cratères d'obus un peu partout, il y avait des shrapnels, on a vu une voiture qui s'était fait rouler dessus par un tank, et sans compter évidemment les cadavres de civils dans des états de décomposition plus ou moins avancés.
Mais selon le maire de la ville, Oleksandr Markouchine, entre 200 et 300 résidents d'Irpine seraient morts au cours de l'occupation russe, tués par les bombardements ou des tirs de snipers. Guillaume, certains en France, toute honte bue, disent dans le sillage de Moscou qu'ils ont des doutes sur la réalité des actes commis par exemple à Boutcha. Alors la situation était un peu différente à Irpine, on l'a bien compris, mais ces corps, vous les avez vus, ils étaient là depuis longtemps et c'était pas des acteurs.
Non, c'était pas des acteurs et je pense que malheureusement des fois il faut être un peu graphique pour que les gens comprennent, pour que les gens se rentrent ça dans le crâne. Certains des corps que j'ai vus étaient dans un tel état de putréfaction, ça veut dire que ça faisait au moins une semaine qu'ils étaient là. J'ai vu un corps dont le visage avait soit pourri, soit été mangé par des chiens errants ou des corbeaux. Donc ça signifie qu'il était là depuis déjà plusieurs jours. On voyait que le squelette avec des orbites vides. C'était des corps qui étaient là depuis facilement 3 jours, 4 jours, voire un peu plus. Donc ce qui correspond à la date où forces russes, à ce moment-là, occupaient encore officiellement, selon leur propre dire, Irpine. Et de même, pour ce qui est de Boutcha, le New York Times a prouvé par des images satellites que les corps que nous a vus dans les vidéos qui sont sortis ensuite étaient déjà visibles par des images satellites au moment où les forces russes occupaient encore Boutcha. Donc ceux qui prétendent que ces crimes-là n'ont pas été commis par les forces russes ne sont que soit des propagandistes, soit des idiots utiles du Kremlin.
Vous avez pu discuter, vous, avec des journalistes qui revenaient de Boutcha ?
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger à ce niveau-là. Moi, je suis rentré d'Irpine, donc le 31, il a fallu que je réalise quelques papiers. Hier, j'étais dans l'oblast de Tcherniv, dans des villages récemment libérés également, mais plus à l'est de Kiev. Donc, je n'ai pas encore eu le temps d'échanger avec des collègues, mais j'ai 2 collègues qui devaient y aller aujourd'hui. Donc, évidemment, je vais échanger avec eux à la fin de la journée, puisque de toute façon, je les héberge dans mon appartement, donc forcément, on va discuter un petit peu, mais je ne m'attends pas à avoir plus d'informations que ce que j'ai déjà eu. Et honnêtement, je pense que les images qu'on a vues dans la presse parlent d'elles-mêmes. En fait, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Bon, quasiment chacun des villages que j'ai visités depuis qu'ils ont été libérés de l'occupation russe, ce sont les mêmes scènes de destruction insoutenables, les maisons effondrées, des scènes de pillage assez claires. À Irpine, il faut savoir qu'une des voitures qui était abandonnée sur la route était marquée d'un V, donc une marque de une sorte de signe de reconnaissance pour les forces russes. Et en fait, c'était manifestement une voiture civile. Hein. C'était une BMW blanche qui avait été volée. En tout cas, on le suppose. Et à l'intérieur, elle était remplie d'ordinateurs, de téléphones, de portefeuilles qui avaient manifestement été volés dans les maisons environnantes. Donc les mêmes scènes se répètent à peu près partout. Et honnêtement, je pense qu'on va découvrir encore d'autres Boutcha dans les jours à venir. Alors, est-ce que ça sera de la même ampleur ? Peut-être pas, parce que là, on parle quand même littéralement de centaines de personnes tuées. Mais je crains que malheureusement, les mêmes scènes se répètent au fur et à mesure que les forces russes se retirent de l'autre côté de la frontière.
Dans quel état d'esprit étaient les militaires que vous avez rencontrés ?
Alors, je pense qu'en fait, il faut distinguer au niveau des militaires qu'on a rencontrés. Les premiers qu'on a rencontrés initialement étaient des militaires des forces de défense territoriale. Donc, ce sont des civils qui ont pris assez récemment les armes et qui ont été intégrés aux forces armées et qui, eux, ont fait part d'une très, très grande colère dans des termes, dans un langage extrêmement cru et assez fleuri, disons. Par contre, les gens que nous avons rencontrés à l'entrée d'Irpine et qui nous ont escortés étaient, eux, des membres des forces spéciales. Donc, le professionnalisme était de rigueur. Et il y avait une sorte de colère froide, mais ils étaient surtout concentrés sur le fait d'assurer notre sécurité et la leur, puisqu'à ce moment-là, ils n'étaient pas absolument sûrs que des tireurs embusqués russes ne soient pas planqués encore dans certains des bâtiments qui nous faisaient face. Donc à ce moment-là, ils sont particulièrement concentrés sur la tâche. On avançait en fait escortés de ces soldats. Et donc, on a échangé quelques mots, évidemment. Ils ont fait part de leur colère et de leur indignation, mais dans l'ensemble, ils sont restés extrêmement professionnels et extrêmement concentrés sur leur tâche, à savoir celle d'assurer notre sécurité.
Guillaume, c'est la première fois que vous couvrez un conflit. Vous avez vu des scènes affreuses. Comment est-ce qu'on se sent après avoir passé quelques heures à Irpine au milieu des survivants ?
C'est assez difficile à dire. Moi, comme je dis souvent, on m'a présenté plusieurs fois ces derniers temps comme correspondant de guerre. Alors en fait, correspondant de guerre, techniquement, oui. Après, moi, je suis venu en Ukraine pour être correspondant en Ukraine et c'est la guerre qui est venue en Ukraine. Donc par voie de conséquence, je suis devenu correspondant de guerre, mais ce n'était pas mon intention initialement. Il n'y a rien qui peut vous préparer véritablement pour les scènes que j'ai pu voir à Irpin, les scènes qu'on voit émerger maintenant de Bucha. Il n'y a pas de formation qui peut vous préparer à ça. Après, je pense que ce qui aide psychologiquement, c'est la sensation de faire un travail qui est dur, mais qui est nécessaire, parce qu'il faut montrer au monde ce qui est en train de se passer ici. Il faut montrer les exactions qui ont été commises et espérer que bon, je ne me fais pas trop d'illusions non plus sur la portée de mon journalisme personnellement et du journalisme en général, mais peut-être qu'on peut apporter une petite, à défaut d'une pierre, au moins un caillou à l'édifice de la justice pour faire en sorte que les gens qui ont perpétré ces atrocités soient amenés devant les tribunaux tôt ou tard, même si je ne suis pas particulièrement optimiste à ce niveau.
La guerre, ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas non plus ces images glanées sur Internet bien assis dans son fauteuil. La guerre dans toute son horreur, alors que l'armée russe reflue au nord de l'Ukraine vers ses frontières et celles de la Biélorussie, ce sont les mêmes scènes de désolation dans les villes abandonnées par l'armée russe. Boutcha, Irpin, des villes martyres, et on n'ose pas imaginer ce qu'endurent ceux qui n'ont pas pu quitter Marioupol. Bonjour Yves Bourdillon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service international des Échos. La Russie, incapable de prendre Kiev, change de stratégie et au fur et à mesure que les unités ukrainiennes avancent, elles découvrent toutes à peu près la même chose.
À peu près, oui, c'est-à-dire des scènes de pillage, de destruction, soit par les bombardements, soit par les unités qui se sont repliées avec des exécutions. On sait qu'il y a eu 400 civils exécutés à Boutcha et des corps que l'on voit abandonnés dans les rues depuis des semaines, d'après les photos de Maxar International qui établissent que ces gens-là ont été exécutés au moment où les Russes tenaient ce terrain-là. Des témoignages de torture, des enfants et des femmes, les dents arrachées ou le corps brûlé. Enfin, c'est assez épouvantable. Et surtout, on découvre ça à Boutcha, mais on va le découvrir. On est en train de craindre que dans d'autres villes, au fur et à mesure que les unités ukrainiennes avancent, elles vont trouver autre chose. Ce matin, on apprenait qu'à Gostomel, il y avait à peu près 400 personnes qui manquaient à l'appel, une autre ville de la banlieue de Kiev. Et on va continuer, malheureusement.
Judging by the rubbish they left behind them, they were having a good time. Loads of bottles of vodka, Jack Daniels, Bell's whisky, beer, you name it.
Dans ce reportage de la BBC dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, le journaliste est passé derrière la maison d'Irina, les détritus laissés par les soldats russes qui s'étaient installés sur place, de l'alcool, beaucoup de bouteilles. C'est difficile de comprendre de tels comportements humains, dit le journaliste Jeremy Bowen. Yves, je vous avais déjà posé la question dans un précédent podcast, mais nous sommes vraiment témoins aujourd'hui de crimes de guerre en Ukraine.
Évidemment, le crime de guerre est assez défini en droit international. Je demandais à une avocate hier qui disait « c'est toute violence non nécessaire sur des civils, des prisonniers ou des soldats blessés ». Donc c'est très manifestement cela, puisqu'on dénombre des centaines, et peut-être que ça va monter aux milliers, de civils exécutés d'une balle dans la nuque, sur leur vélo, des simples passants qui étaient partis faire les commissions dans des villes sous occupation. Donc on est devant quelque chose qui est probablement le pire massacre en Europe depuis 30 ans, depuis les massacres des guerres de l'ex-Yougoslavie en 1995, et pour remonter à quelque chose d'aussi ample, il faudrait sans doute remonter après à quasiment 1945. Donc ce sont des crimes de guerre documentés et avec des preuves accablantes, ne serait-ce que soit les témoignages des survivants qui ont raconté comment des gens, généralement du FSB, kidnappaient des gens et les torturaient, et puis aussi les photos des cadavres.
Yves, y a-t-il eu aussi des crimes de guerre documentés de l'autre côté, côté ukrainien ?
Oui, mais pas du tout de la même ampleur. C'est-à-dire que je n'ai vu passer, alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y en a peut-être d'autres. J'ai vu une vidéo où trois prisonniers russes se font tirer dans les jambes et je crois qu'il y en a un qui, sous l'impact, la douleur, meurt. Donc, ce sont des crimes de guerre, mais avec le nombre de personnes impliquées est moindre. Et à vrai dire, il est évident que la Cour pénale internationale a dit qu'elle ferait des enquêtes sur les crimes de guerre, en soulignant bien des deux côtés, ce qui est évidemment légitime. On verra aussi la stratégie du gouvernement ukrainien. Est-ce qu'il va accepter cette enquête? En tout cas, une chose est sûre, c'est que la Russie, elle, n'acceptera pas l'enquête puisqu'elle dit qu'il n'y a rien. Tenez-vous bien, la télé russe, je regardais le dimanche, disait que ces corps ont été disposés là par des services secrets britanniques en disant « c'est les meilleurs du monde pour ce genre d'intox ». Donc là, il est clair que le régime russe ne va pas reconnaître ces crimes de guerre. Ils arrivent même, plus c'est gros, plus ça passe, à prétendre à la fois que les morts ne sont pas morts, sont des figurants, et qu'ils ont été tués par les Ukrainiens.
Il n'y avait qu'une utilisation très forte des réseaux sociaux pour faire passer ces idées.
Oui, alors on sait bien qu'il y a des usines, des troll factories, comme on dit, dont certaines sont d'ailleurs tout à fait avec pignon sur rue. Je pourrais presque, si je l'avais... Il y a une adresse à Saint-Pétersbourg où sont concentrées des centaines de Russes polyglottes qui sévissent sur les réseaux sociaux et dont les éléments de langage sont rediffusés par leurs relais d'influence en Occident, qui sont soit des idiots utiles, comme disait Lénine à propos d'un journaliste britannique très complaisant, soit aussi éventuellement, il y a des agents stipendiés, hein, toutes les grandes puissances ont leur méthode. Donc, il y a sur les réseaux sociaux une utilisation massive de gens à peu près toujours les mêmes arguments, du genre, ah, on ne peut pas savoir, vous n'étiez pas sur place, moi je ne crois que ce que je peux voir, ce qui est une sorte de nihilisme au profit d'une dictature, puisque si on fonctionne comme ça, on ne croit plus rien.
Je ne sais pas. Je dis simplement, il faut être prudent. On se souvient de Timișoara, on se souvient de la guerre en Irak. Il y a eu beaucoup de manipulations comme ça d'images. Donc je dis, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Je dis simplement, il faut être prudent. Il faut attendre une enquête internationale et voilà, c'est tout.
On vient d'entendre, hein, Éric Zemmour, méfions-nous des images, il faut être prudent. Hein, cette réaction lors de l'émission Les 4 vérités sur France 2. Alors, il ajoute quand même, si c'est le cas, c'est absolument infâme, ignoble. Instiller le doute toujours, là aussi, c'est la stratégie?
Oui, bien sûr, c'est la formule. Je pose juste des questions. Généralement, c'est comme ça qu'on justifie. On instille le doute sur des éléments qui sont très probants. On voit bien les échanges, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même avec des communiqués de presse inféodés au Kremlin, c'est toujours la photo, par exemple, de Maxar International qui montrait que le 11 mars, la rue où on a retrouvé les cadavres était vide et le lendemain, il y avait 12 corps allongés, disent « Ah ben oui, mais Maxar est certainement une agence du Pentagone. » Donc, on arrive toujours à instiller le doute. Il y a des gens qui croient que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Donc, là-dessus, quels que soient les éléments accablants, les éléments vérifiés, visibles, de diverses sources avec des éléments différents, les corps dans la rue en état de décomposition, donc qui ont été abattus depuis longtemps, les témoignages, des gens diront oui, mais ces témoins sont sans doute des agents de la CIA.
Ce qui est terrible, c'est que ces scènes morbides ne sont pas seulement le fait des milices tchétchènes ou syriennes, voire des mercenaires de Wagner, comme on pourrait le penser.
En effet, c'est-à-dire que les crimes ont probablement été commis pour partie par les agents du FSB, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des brutes épaisses, soit par des soldats. Et alors là, il y a un phénomène assez curieux, c'est que dans le sud, on voit des Ukrainiens qui manifestent face à des soldats russes qui tirent en l'air, mais ne leur tirent pas dessus. Et donc, on voit que ces soldats ne sont pas, a priori, des criminels de guerre en puissance. Et pourtant, c'est à peu près les mêmes qui, dans le nord, ont, lors de leur retrait, commis ces crimes. Et on peut supposer qu'effectivement, c'est d'ailleurs un phénomène qui peut être assez classique, une armée défaite, puisque s'ils se sont retirés du nord de Kiev, c'est qu'ils ont perdu la bataille, se venge sur les civils. Et il y a d'autres cas, je ne vais pas convoquer Oradour-sur-Glane, qui est dans un contexte historique différent, mais finalement, c'était pareil, une division SS qui se retire, qui tue 600 personnes de rage. Ben voilà, peut-être que c'est le même phénomène que d'autres armées ont aussi commises.
Malheureusement, Yves, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément lieu d'être surpris. Ce n'est pas la première fois que l'armée russe se livre à de tels méfaits.
Oui, c'est dans sa doctrine habituelle. À vrai dire, quand on regarde l'histoire, ils sont suprêmement indifférents à la vie humaine, que ce soit évidemment les civils d'en face et même leurs propres soldats qui lancent parfois dans des offensives démentes. Et ils ont effectivement joué un rôle crucial lors de la Deuxième Guerre mondiale, sur lequel ils capitalisent, puisque eux, d'ailleurs, ils parlent de la Grande Guerre patriotique. Ils ont eu 20 millions de morts, ce qui est un sacrifice incroyable, mais dont une partie est étaient liées aux stratégies suicidaires des généraux qui lançaient leurs soldats dans des offensives suicides. Donc voilà, ils ont une doctrine que l'on a vue à l'œuvre en Tchétchénie, où ils ont massacré et terrorisé. On sait aussi que les scènes de vidéos de Kharkiv et Mariupol, qui ressemblent un peu à Dresde, enfin qui ressemblent à des villes britanniques ou allemandes bombardées pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait la même chose à Alep en Syrie. Donc c'est leur méthode.
Le président ukrainien Zelensky, qu'on entend ici, s'est rendu à Boutcha. Des milliers de personnes ont été torturées ou tuées, dit-il, et il appelle à de nouvelles sanctions rapides contre la Russie. J'espère qu'on ne nous dira pas, on attend encore, dit-il, lors de cette conférence de presse protégée par des soldats. Certains dans les médias décrivent un tournant dans cette guerre à l'image du bombardement d'un marché à Sarajevo en 1995. Yves, est-ce qu'on peut en douter ?
On peut toujours en douter, mais les éléments sur la table disent que oui, ce sera sans doute un tournant pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des négociations qui sont en cours depuis 15 jours et on voit mal comment, peut-être un cessez-le-feu, mais en tout cas un accord de paix entre Kiev et Moscou devient très compliqué. Vous ne signez pas un accord avec un criminel de guerre. Donc, il est probable que les négociations ne vont pas aboutir. Elles sont déjà très difficile parce que les positions des deux camps sont très antagonistes. Et puis un deuxième élément, c'est que les Occidentaux, l'indignation devant ces crimes fait qu'ils vont redoubler de cohésion entre eux pour aider l'Ukraine à tenir tête. Donc oui, c'est un tournant. Au passage, on peut souligner d'ailleurs que les Occidentaux sont derrière l'Ukraine, mais il n'y a qu'eux. C'est-à-dire que le Sud est suprêmement indifférent à ce qui s'est passé. J'ai cherché ce week-end des réactions d'autres pays comme l'Inde ou le Brésil et je n'en ai pas trouvé. Il semble considérer que c'est une affaire strictement européenne.
L'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne ainsi que Londres, Paris, Berlin et Rome ont dénoncé ces atrocités. Les auteurs de ces crimes et leurs commanditaires doivent rendre des comptes, a notamment déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. Plusieurs enquêtes ont déjà été ouvertes, comme pour le bombardement du théâtre de Mariupol. Mais comment traquer les crimes de guerre et qui est compétent? C'est la question que j'ai posée à Sébastien Mastrandreas.
En matière de crimes de guerre, c'est la Cour pénale internationale qui siège de façon permanente à La Haye, qui est compétente pour ouvrir une enquête. C'est ce qu'elle a fait en Ukraine dès le début du conflit, le 3 mars. Mais il y a aussi d'autres juridictions qui peuvent se saisir d'un tel crime. Donc en Ukraine, en l'occurrence, la justice locale a ouvert plusieurs dossiers, mais aussi à l'international. On a entendu beaucoup de voix s'élever contre des possibles crimes de guerre de la part d'Emmanuel Macron, Joe Biden ou alors de Boris Johnson. Et concrètement, en France, il est possible d'ouvrir une enquête pour des faits de crimes de guerre commis en dehors du territoire français, seulement si une victime est française ou si l'auteur présumé est français ou alors qu'il réside sur le territoire. Dans ce cas-là, c'est le parquet national antiterroriste qui ouvre une enquête, ce qu'il a fait cette semaine 3 fois contre X. Donc il y a 3 dossiers qui ont été ouverts. Et il est enfin possible pour les juridictions extérieures de contribuer aux enquêtes en cours en fournissant une aide à la CPI, donc à la Cour pénale internationale, ou à l'Ukraine directement. C'est ce que fait actuellement l'Union européenne, qui a mis en place une équipe d'enquête conjointe avec Kiev et qui a affirmé mettre en place également une aide de la CPI. Enfin, en parallèle de ces compétences juridiques, il y a le travail des ONG comme Human Rights Watch ou alors Amnesty International qui, eux, vont contribuer aux enquêtes pour les crimes de guerre. Donc, dans le cas de l'Ukraine, par exemple, elles vont récolter, analyser, vérifier des données pour constituer des preuves. Et c'est un travail qui est publié régulièrement dans des rapports rendus publics et qui sert de support aux enquêteurs des diverses juridictions.
À partir de quand peut-on considérer qu'il y a crime de guerre ?
Le crime de guerre, il est défini, encadré en droit international. Donc, il est défini par des accords internationaux et notamment par la Convention de Genève. Ce crime de guerre inclut principalement des cas où l'une des parties en conflit s'en prend de manière intentionnelle à des objectifs non militaires qui visent des civils, des prisonniers de guerre ou des blessés, dans des lieux considérés comme interdits, donc comme des zones civiles, des crèches, des hôpitaux ou des écoles. Et aussi l'utilisation de certaines armes prohibées, comme le recours aux armes à sous-munitions, dont on entend parler régulièrement depuis le début du conflit.
Il y a une question importante, comment en apporter la preuve ?
L'élément de la preuve est difficile à apporter dans ce type d'enquête, car simplement le terrain est souvent impraticable, donc les preuves ne restent pas intactes assez longtemps pour laisser aux enquêteurs le temps de récolter tous les éléments probants. Donc, les enquêteurs des ONG ou des institutions juridiques sont rassemblés en équipe ou en laboratoire d'enquête et ils vont avoir plusieurs moyens d'agir. Ils vont pouvoir, premièrement, exploiter des données dites en open source et suivre un travail méticuleux d'authentification et de vérification pour confirmer la traçabilité, par exemple, d'une vidéo ou d'une photo en la corroborant avec des images satellites et d'autres informations publiques telles que la météo, la géolocalisation ou d'autres éléments qui sont partagés sur les réseaux sociaux au quotidien. Ensuite, il y a des experts en armement, par exemple, qui vont réussir à identifier précisément les armes utilisées lors d'une frappe militaire, d'analyser le positionnement des troupes très précis et confirmer la présence ou non de cibles militaires dans les zones étudiées. Pour vous donner une idée, par exemple, Amnesty International avait passé au peigne fin pas moins de 65 photos et vidéos d'une attaque d'une école maternelle dans le nord-est de l'Ukraine. C'était le 25 février dernier, et ça a permis d'établir l'utilisation de bombes à sous-munitions contre des civils, ce qui est constitutif d'un crime de guerre. Et il y a enfin, outre ces preuves dématérialisées, on va dire, il y a aussi des témoignages, évidemment, qui sont recueillis. Donc, ça se fait par téléphone ou alors sur le terrain. Quand ce n'est pas possible de le faire directement sur les lieux du crime, ça se fait aux frontières par des experts. Et cette démarche, elle présente certaines limites, notamment en raison des sources qui peuvent craindre des représailles.
Une fois qu'on a établi qu'il y avait bien des crimes de guerre, à charge ensuite de trouver les responsables. Et là, c'est pas simple non plus.
En effet, pour les crimes de guerre, donc, c'est un peu particulier parce qu'il faut prouver un contexte très spécifique. Donc, à savoir, il faut prouver la réalité des faits, donc montrer qu'il y a eu une attaque délibérée contre un groupe protégé, mais aussi prouver un élément intentionnel dans le crime. Ce dernier point, il est certainement le plus difficile à démontrer. C'est du moins ce que s'accordent à dire tous les experts que j'ai pu contacter. Il s'agit en fait d'identifier la structure de la chaîne militaire, de la remonter au plus haut niveau pour comprendre qui a planifié l'attaque, comment elle a été faite et prouver ce qu'il s'est passé en fait à tous les niveaux de la chaîne de commandement. Et lorsque cet élément intentionnel est établi, la Cour pénale internationale notamment, peut émettre des mandats d'arrêt contre les responsables présumés, qui, eux, d'ailleurs, ne peuvent être jugés qu'à la cour elle-même. Ils ne peuvent pas être absents lors de leur procès. Et dans le cas de l'Ukraine, le procureur de la CPI a agi plutôt rapidement en ouvrant une enquête quelques jours à peine après l'offensive, 42 États ayant saisi la cour. Donc ça, c'est une première dans l'histoire du droit international. Ça ne veut pas dire pour autant que les responsables seront désignés, identifiés et jugés rapidement et facilement.
Le temps de la justice internationale peut être long, mais le jugement de l'opinion publique dans les pays occidentaux du moins pourra aussi jouer un rôle dans la mise en place des sanctions contre la Russie. Merci à Guillaume Ptak pour son regard vu d'Ukraine. Merci à Yves Bourdillon pour son regard éclairé sur cette guerre terrible en Ukraine. Et merci à Sébastien Mastrandreas pour cette explication sur le traitement des crimes de guerre par la justice internationale. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur leséchos.fr et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.